franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, en partenariat avec le journal Libération, il était une fois dans l'ouest de Paris, au royaume des Balkanies. Cette histoire, c'est celle des démêlés judiciaires à répétition et des soupçons qui pèsent sur un couple d'élus de la République, en l'occurrence dans les Hauts-de-Seine. Ce couple, ce sont les Balkanies, Patrick et Isabelle, qui depuis près de 30 ans ont fait main basse sur la ville de Levallois-Perret, pour le meilleur parfois, pour le pire souvent. Figure indéboulonnable de la politique levalloisienne, leur histoire pourrait faire l'objet d'un roman policier tant elle regorge d'éléments troublants et tant gravite autour d'eux le trouble de la suspicion. En résonance d'ailleurs avec la situation que connaît François Fillon aujourd'hui, non pas la culpabilité, c'était la justice de l'établir ou non, mais le soupçon qui pollue la vie politique et le débat d'idées. Levallois donc, cet univers impitoyable, c'est son histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Après le récit, nous recevrons Emmanuel Van Steen, journaliste au pôle enquête du journal Libération, notre partenaire tous les 15 jours, et je dois préciser que c'est une rediffusion et que nous allons actualiser avec notre invité ce sujet, car les éléments connus aujourd'hui ne l'étaient pas lors de la première diffusion à l'automne 2015. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo qui a assisté à un conseil municipal de Levallois-Perret. C'était le 28 septembre 2015. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Carra avec le soutien des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Mehdi Fatah.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Village de Giverny, département de l'Eure, nous sommes au mois de janvier 2014. C'est ici, en Normandie, à 75 km dans le nord-ouest de Paris, fief historique de Claude Monet et des impressionnistes, que se rendent les officiers de la police judiciaire. Mandatés par les juges du pôle financier du parquet de la capitale, ils ont rendez-vous ce matin-là avec les gendarmes pour effectuer la perquisition d'une grande demeure en périphérie de la commune de Giverny. Le moulin de Cossy, c'est son nom, est un vaste domaine de près de 4 hectares, traversé par une rivière, composé de plusieurs bâtiments d'époque, dont un ancien moulin transformé en résidence de luxe. Sur les photos aériennes, l'ensemble profite d'une multitude d'équipements haut de gamme, avec pas moins de 2 piscines, un terrain de tennis, un green, une salle de gymnastique, des atouts qui en font dans la région un palais plus impressionnant qu'impressionniste. Une fois le portail ouvert, les policiers entrent dans l'immense propriété. Première impression, les pelouses et sculptures florales sont parfaitement taillées et entretenues, signe que la demeure n'est pas laissée à l'abandon. Autre élément intéressant qui confirme que quelqu'un réside bien là, les voisins affirment que voir plusieurs véhicules vont et viennent en journée, dont une Citroën CI noire aux vitres fumées qui arriverait le soir et repartirait tôt le matin. Un détail qui, on va le voir, est loin d'être négligeable. Après avoir fait le tour des bâtiments du domaine, près de 1300 mètres carrés habitables, les policiers pénètrent dans la maison principale, le moulin rénové. En ouvrant la porte, les enquêteurs constatent que son ou ses résidents ont un goût prononcé pour le luxe. Et très vite, ils comprennent qu'ils ont mis les pieds dans une véritable caverne d'Ali Baba. En effet, dans les couloirs, entre les trophées de chasse, le mobilier Louis XVI et les statues hindoues, ils découvrent plusieurs toiles de maître signées Picasso, Miro ou encore Raoul Dufy, dont certaines sont posées par terre, encore emballées dans du papier à bulles. Des toiles dont le prix pourrait dépasser plusieurs millions d'euros. Un budget auquel il faut ajouter une trentaine de montres de collection retrouvées cachées dans le coffre-fort du moulin. En tout état de cause, ceux qui habitent là roulent sur l'or. Les résidents, justement. Eh bien, ce sont eux qui intéressent la justice, et plus particulièrement les juges Van Ruinbeck et Simon. Voilà plusieurs mois qu'ils enquêtent entre Paris, Giverny, Saint-Martin dans les Antilles et Marrakech sur l'extravagant train de vie et l'incroyable patrimoine d'un couple d'élus bien connus du département des Hauts-de-Seine et plus particulièrement de la commune de Levallois-Perret. Un couple soupçonné de pratiquer l'évasion fiscale et la sous-évaluation de patrimoine. des soupçons qui vont se concrétiser, déboucher sur une information judiciaire quelques semaines plus tard. Nous sommes alors au mois de mai 2014.
France Inter.
Deux jours de garde à vue et au bout, une mise en examen. La première adjointe et épouse du maire de Levallois-Perret, Isabelle Balkany, est donc soupçonnée de blanchiment de fraude fiscale. Son mari, le député maire UMP, Patrick Balkany, est pour l'instant à l'abri grâce à son immunité parlementaire, mais il pourrait bientôt être convoqué par la justice. Sarah Guibaudot.
Au cœur de l'enquête, une villa de luxe sur l'île de Saint-Martin et un riad à Marrakech. Officiellement, quand Patrick et Isabelle Balkany y passent leurs vacances, ils sont locataires. Mais la justice les soupçonne d'en être propriétaires, bien cachés derrière des prête-noms et des sociétés basées dans des paradis fiscaux.
Bienvenue à l'hôtel de ville de Levallois.
À la mairie de Levallois-Perret, le lendemain, l'ambiance est loin d'être à la fête. Comme chaque matin, c'est une Citroën C6 noire aux vitres fumées, celle-là même décrite par les voisins du moulin de Giverny, qui vient déposer monsieur le maire, Patrick Balkany, et madame la première adjointe, sa femme, Isabelle Balkany. Les journalistes sont là pour tenter de recueillir une réaction des deux principaux intéressés. Mais sans livrer le moindre commentaire et en esquivant le cadre des caméras, le couple Balkany s'engouffre dans l'hôtel de ville et part rejoindre ses bureaux. La veille, l'affaire a connu un tournant décisif avec les aveux d'Isabelle Balkany. Face au magistrat, détenteur, il est vrai, d'éléments accablants, elle n'a pas pu nier la réalité des faits. Parmi ceux-là, des relevés bancaires et la déclaration de revenus du couple. Deux éléments qui laissent apparaître une énorme incohérence dès lors qu'on les confronte. Lorsque le couple Balkany déclare au fisc 145 000 euros de revenus nets, le débit de leur carte bancaire dépasse les 360 000 euros. Les Balkany sont donc en mesure de dépenser deux fois plus que ce qu'ils ne gagnent. Alors les juges ont levé le voile sur un pactole d'un peu plus de 5 millions d'euros discrètement épargnés sur des comptes bancaires dissimulés à l'étranger. Horriblement classique. Prise la main dans le sac, ou plutôt fausse déclaration à l'appui, Isabelle Balkany finit par reconnaître face au juge qu'elle a oublié de déclarer une partie de son patrimoine, dont une villa sur l'île de Saint-Martin aux Antilles, et que oui, elle est bien titulaire d'importantes sommes d'argent domiciliées sur des comptes à l'étranger qui n'ont jamais été déclarés au fisc. Pour sa ligne de défense, la première adjointe au maire de Levallois plaide une banale erreur d'appréciation suite à un héritage de famille. Une erreur banale qui a tout de même permis au couple d'échapper à l'impôt sur la fortune pendant près de 20 ans. Jointe par téléphone par des journalistes de France 2, Isabelle Balkany se défend pourtant de tout enrichissement personnel dans le cadre de ses fonctions à la mairie.
Oui, on a une maison à Giverny depuis 30 ans. Oui, c'est vrai. Et on en a fait donation à nos enfants, pas pour échapper au fisc. S'il y a des gens qui ont des questions à nous poser, nous les répondrons, mais pas les journalistes. C'est notre vie privée. La transparence, moi j'en ai marre. Ça suffit, c'est quoi ça? On est obligé de répondre aux journalistes? Vous êtes quoi? Vous êtes des auxiliaires de police, des auxiliaires de justice maintenant? Ça va!
Alors je vais vous dire une chose. On aura commencé la politique beaucoup plus riche qu'on ne la finira. On va pas s'excuser d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche. J'y peux rien. On a eu des pères avant nous qui ont beaucoup travaillé et qui nous ont laissé du patrimoine.
Convoqué à son tour par le pôle financier du parquet de Paris au mois d'octobre 2014, le principal intéressé de toute cette affaire, Patrick Balkany, est également mis en examen. Au menu, blanchiment de fraude fiscale et corruption, deux notions intimement liées. Deux graves accusations, quoi qu'il en soit, pour un élu de la République. Cette procédure des juges Van Ruynbeck et Simon repose sur plusieurs témoignages concordants, ainsi que sur des éléments fournis par la cellule TRACFIN, l'organisme anti-blanchiment de Bercy. Des éléments qui ont permis aux juges de remonter le schéma sophistiqué de la fraude organisée par les époux Balkany. Une fraude dissimulée de nombreuses années grâce à une multitude de sociétés écrans et de comptes offshore, grâce à des prête-noms et à l'usage de la légation de leurs biens, mais aussi par un astucieux subterfuge d'optimisation fiscale. Les Balkany sont en effet considérés séparés de corps et de biens depuis 1996 auprès du fisc. Malgré tous ces éléments qui semblent le confondre, Patrick Balkany s'enferme dans le déni et, fidèle à lui-même, à sa sortie du pôle financier, il n'hésite pas à afficher sa sérénité face aux journalistes.
Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal? Pose la question. Vous savez, quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Maintenant, qu'ils fassent leur enquête, ça durera, mais moi j'ai rien à me reprocher.
Mais derrière ce dossier d'évasion fiscale, ce qui intéresse les enquêteurs, c'est de savoir si oui ou non les Balkany ont profité de leur fonction à la mairie pour s'enrichir personnellement. Car ce n'est pas la première fois que ce couple d'élus aux envolées lyriques, parfois hautes en couleur, défraient la chronique judiciaire et font face à de graves accusations qui entremêlent les intérêts privés et publics. Globalement, les Balkany nous apparaissent comme les personnages principaux d'une histoire sans épilogue qui a débuté il y a 32 ans. L'histoire entre le couple Balkany et la commune de Levallois-Perret commence au soir du 6 mars 1983, lorsqu'à la surprise générale, le jeune et ambitieux candidat parachuté par le RPR, Patrick Balkany, remporte au premier tour les élections municipales et s'installe dans la foulée à l'hôtel de ville de Levallois. Pour le clan de Charles Pasqua, dont Balkany est l'un des plus fidèles lieutenants, la victoire est totale dans la stratégie de conquête du 92, les Hauts-de-Seine. Levallois-Perret était jusqu'alors l'un des bastions de ce qu'on appelait la ceinture rouge, administrée par les communistes. Mais ce qui d'emblée retient l'attention dans cette victoire par les urnes, ce sont les méthodes électorales employées par le couple Balkany, comme l'expliquera bien plus tard Didier Schuller, à l'époque fidèle conseiller et proche du couple.
Le couple Balkany, c'était un peu la tête et les jambes. Lui, il aimait être au contact des gens et elle, Isabelle, s'occupait de toute la partie intellectuelle, donc des textes. Leur fonctionnement était déjà parfaitement rodé. Seulement, quand Patrick s'est retrouvé parachuté à Levallois-Perret, c'était pas gagné. Le maire communiste, parfait gens, semblait indéboulonnable. Du coup, il a fallu innover dans l'approche des gens. C'est pourquoi, au tout début de la campagne, les Balkany ont créé une espèce de mairie bis, une structure parallèle. À partir de la permanence RPR de la rue Trébois, ils ont organisé des activités sociales. Ils louaient des cars pour emmener les personnes âgées, visiter des trucs en dehors de la ville. Ils organisaient des goûters et des bals dansants. Les vieux, au niveau électoral, c'est le vrai vivier, parce que eux, ils votent. Ils sont reconnaissants, ils sont sensibles.
En langage politique, cette méthode s'appelle aussi du clientélisme, particulièrement vivace dans les Hauts-de-Seine, car elle va être régulièrement utilisée par les candidats de droite pour faire basculer les villes de gauche. Autre élément intrigant, l'argent, nerf de la guerre, qui a servi à financer toute cette campagne électorale. Sur ce point, Didier Schuller fournit de très surprenantes explications.
Pour arriver à ce que cela marche, on dépensait des fortunes. Les Balkany ont investi leur patrimoine personnel. Il faut dire qu'ils venaient tous les deux d'un milieu très aisé. Isabelle, elle, avait beaucoup d'argent, hérité de sa famille, les Smadja. Patrick, lui, n'était pas pauvre non plus. Son père avait créé la chaîne de magasins de prêt-à-porter Réti. Ils ont mis énormément d'argent sur la table, au point que Patrick m'avait dit n'avoir plus un rond à la fin. Mais malgré tout, cela ne suffisait pas à combler les besoins. Aussi, c'est moi qui nous ai trouvé un soutien pour financer la campagne, par le biais d'un de mes amis, promoteur en Sologne. Il a investi sans compter parce qu'il s'est dit que si Patrick était élu, il lui renverrait l'ascenseur. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé juste après la victoire. Mon ami promoteur a récolté un paquet de contrats pour des chantiers. Dans ces années-là, aucune loi n'encadrait le financement des partis politiques, donc ce que nous faisions n'avait rien d'illégal, et d'ailleurs, tout le monde le faisait. C'était le meilleur moyen d'inverser la balance.
Quelques mois seulement après sa prise de fonction, Patrick Balkany enfile les habits d'un maire bâtisseur. Et Levallois-Perret devient son chantier, celui où toutes les bonnes affaires sont possibles pour le BTP, où il fait bon être ami avec le maire pour obtenir de juteux contrats. L'objectif de tous ces travaux, c'est de transformer et moderniser la commune, jusqu'alors populaire et ouvrière, avec ses usines, manufactures et entrepôts, histoire d'en faire le pendant de sa voisine Neuilly-la-Bourgeoise. Ainsi, des quartiers entiers sont rasés et cédés à des prix très bas, pour le plus grand régal des promoteurs immobiliers qui édifient de nouveaux immeubles de bureaux ou des quartiers résidentiels destinés à une population plus aisée et donc, on peut le penser, plus à droite. Le prix du mètre carré, lui, s'envole pour atteindre des sommets. Toutefois, Patrick Balkany se montre précautionneux avec les populations des quartiers populaires, à qui il offre de nouvelles crèches, des écoles et des espaces verts, un moyen classique pour s'assurer du soutien de sa population. Mais très vite, derrière cette folle dynamique de construction, de modernisation et de remodelage de la ville, la justice s'alerte des étonnants procès décorés utilisés ce maire bâtisseur. Dès la fin des années 80, les premiers soupçons apparaissent dans l'attribution des marchés. Des soupçons qui touchent directement le couple Balkany, accusé d'avoir bénéficié d'une remise de 50% sur le prix d'achat d'un appartement, par exemple, un luxueux duplex de 500 mètres carrés dans un immeuble face à la mairie, en échange d'un arrangement avec un promoteur immobilier. Une affaire classée sans suite, pourtant, faute de preuves, contre l'élu. Mais il apparaît également que dans la boutique de l'hôtel de ville se concocteraient des transactions pas forcément très nettes. Un sentiment renforcé au même moment par la découverte d'un vaste réseau de fausses factures en Île-de-France qui touche directement le secteur de la construction. Et parmi les villes, où justement les entreprises de travaux publics se régalent, il y a Levallois-Perret.
Côté court, la Cogedim, une affaire prospère qui s'affiche en double page dans les journaux. Sans prétention, elle annonce Cogedim, première marque de l'immobilier en France. Côté jardin, cette société, filiale de la Banque Paribas, est depuis plusieurs mois dans le collimateur de la justice et du canard enchaîné. À l'origine de ces ennuis, cette zone front de Seine, située à Levallois. Ce terrain a été racheté à Citroën par la mairie pour y construire 4500 logements et 280 000 m2 de bureaux. En novembre 87, la Semarelp, société d'économie mixte de la ville de Levallois, effectue des travaux de démolition. Deux mois plus tard, la Cogedim commande de nouveau ces mêmes travaux. La CTMT en est chargée, le mécanisme des fausses factures s'enclenche, les 3 millions de francs prévus pour ces travaux, déjà réalisés, atterrissent dans un bureau d'études. Le tour est joué. Mais où est passé l'argent ?
Le cas de la Cogedim et du projet de la ZAC du Front de Seine viennent mettre en lumière les pratiques d'une mairie où les responsables communaux déterminent eux-mêmes l'attribution des terrains via leur opaque structure, la Semarlep, administrée par la première adjointe au maire, Isabelle Balkany. Conflit d'intérêts ? En tout cas, pour l'opposition communale, ces affaires sont comme du pain béni à l'approche des élections de 1995. Et parmi ceux qui vont profiter à fond du filon, il y a le candidat de droite, Olivier de Chazeau, qui ne va avoir de cesse de dénoncer le train de vie du maire sortant et de son goût prononcé pour les dépenses dans des projets aussi faramineux que ruineux pour la commune. Une campagne qui va porter ses fruits et aboutir à la surprise générale au début de la fin de l'hégémonie des Balkany. Le soir des élections municipales de 1995, l'ambiance est tendue à Levallois. Balkany est conduit. Ce premier revers est une douche froide pour le clan Balkany qui paraissait jusqu'alors locataire à vie de l'hôtel de ville. D'autant que le nouveau maire, Olivier de Chazeau, va porter sur la place publique les relevés de dépenses de son prédécesseur. Et il n'y va pas par quatre chemins pour affirmer que la gestion des Balkany a laissé un trou béant dans les comptes publics. La ville serait même endettée de plusieurs dizaines de millions de francs. L'enjeu pour la nouvelle municipalité est donc de remettre de l'argent dans les caisses avant de se lancer dans tout autre investissement. Mais le grand ménage entrepris par Olivier de Chazeau ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à organiser des opérations spectaculaires, comme ici sur le parvis de l'hôtel de ville, pour démontrer le train de vie hors norme de son prédécesseur.
Pas d'amateur au-dessus de 48 000, j'adjuge. Adjugé 48 000.
6 véhicules vendus par la municipalité de Levallois-Perret. 48 000 francs pour la R25 limousine V6 Turbo. Une vente qui suscite des discussions chez les administrés.
100 000 tumeurs, ça vaut rien.
Mais quand il les a achetés, combien qu'il les a payés ? Sauf comment ? Oh, allez, discutons pas.
Je trouve anormal quand même qu'il y ait 6 limousines en voiture de fonction et un 4x4 en voiture de fonction dans les Hauts-de-Seine. On n'est quand même pas en Guyane française, hein.
Et 59 000 francs pour cette Cherokee, plutôt une bonne affaire. Mais le clou de la vente, c'est cette limousine transformée, rallongée de 30 cm, habillage bois, téléphone, console radio, adjugée 110 000 francs ce matin, neuve, elle en avait coûté plus de 500 000.
Humiliation publique pour l'ancien seigneur de Levallois, et c'est bien ce ménage dans les comptes qui va déclencher les ennuis judiciaires de la maison Balkany. Le 13 novembre 1995, sur demande du parquet, la police perquisitionne l'hôtel de ville de Levallois. Une trentaine de personnels communaux sont entendus. On découvre alors que 3 employés affectés au service information de la mairie semblent en réalité avoir travaillé au service personnel des époux Balkany. L'un d'eux, un employé des services techniques, explique aux policiers avoir été l'homme à tout faire du couple et assure qu'il travaillait exclusivement dans l'appartement des Balkany à Levallois. Puis on découvre qu'un couple d'employés communaux assurait, lui, l'entretien de la résidence secondaire de l'ancien maire à Giverny. coût total pour les Levalloisiens, plus de 800 000 euros. Face à des témoignages accablants et des preuves en marbre, les Balkany passent très vite aux aveux, même si pour eux, ils n'ont fait qu'agir dans l'intérêt de la commune.
J'ai toujours considéré qu'ils étaient au service de la commune et que le maire était maire 7 jours sur 7 et je travaillais tous les jours, tout le temps, et j'ai toujours reçu chez moi des chefs d'entreprise, des gens qui ont amené de la richesse dans la commune, et j'avais besoin d'être aidé, et c'est pour ça que je le faisais tout à fait ouvertement, sans m'en cacher.
Seulement, face au président du tribunal de Nanterre, lors des audiences, la défense de l'ancien maire ne convainc pas. Qu'en est-il de vos enfants confiés à des employés municipaux et de votre fils, hein, qui a apporté beaucoup de clients à la mairie? Personne n'a jamais vu l'un de ces 3 employés ailleurs que chez vous. Comment justifiez-vous cela? Lui assène le président du tribunal. Les Balkany se tairent dans le silence. Raison sans doute pour laquelle, 6 mois plus tard, en mai 96, le tribunal condamne le couple à 15 mois de prison avec sursis, 30 000 euros d'amende et 2 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Une peine à laquelle s'ajoute celle de la Chambre des comptes d'Île-de-France, qui demande le remboursement à la municipalité de Levallois, par les Balkany, du montant des salaires des employés municipaux liés à sa condamnation. On parle ici de plus de 500 000 euros. Débute alors pour Patrick Balkany une traversée du désert, ou plutôt une mise au vert sous le soleil des Antilles, qui durera 5 ans. Avant qu'un beau jour, monsieur l'ancien maire ne vienne de nouveau frapper aux portes de la mairie.
Cette fois-là, que voyais-tu dans mon regard écru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. J'ai cru pouvoir
le voir en moi,
j'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
J'ai cru pouvoir
le voir en moi,
j'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
J'ai cru pouvoir
le voir en moi,
j'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
J'ai cru pouvoir
le voir en moi,
j'ai cru pouvoir
la saisir en toi.
De soir en soir,
revenu, et je crois que je manquais à beaucoup de Levalloisiens, et bien ils l'ont prouvé aujourd'hui, et puis je crois que ce qu'ils avaient apprécié, c'est d'avoir un vrai maire pendant 12 ans, et ce qu'ils ont regretté, c'est d'avoir une équipe qui ne se sont absolument pas, tous les membres de l'équipe ont été, je dois dire, très, très loin des Levalloisiens pendant ces 6 dernières années. Ils ne se sont absolument pas préoccupés des besoins des Levalloisiens. Et aujourd'hui, les Levalloisiens, ils ont envie de retrouver un vrai maire.
Ce dimanche 11 mars 2001, c'est un Patrick Balkany tout sourire qui entre par la grande porte de la mairie de Levallois. Ce soir, il est le grand gagnant d'une élection où il se présentait sans étiquette et sans soutien. Une élection pour laquelle son ancien parti, le RPR, et aussi l'UDF, le jugeant trop peu fréquentable, avait misé sur un autre cheval, le maire sortant, Olivier de Chazeau. Mais ce succès va être de courte durée. Six mois plus tard, en effet, le tribunal administratif de Paris estime que Patrick Balkany était encore inéligible et donc il annule l'élection. Il faut organiser un nouveau scrutin en 2002. En attendant, Balkany a retrouvé également son titre de député des Hauts-de-Seine. Alors, qu'en pensent les Valoisiens à cette époque ?
Deux fois de suite, un monsieur a déchiré l'affiche de monsieur de Chazot. Et alors après, il est passé avec la femme de monsieur Balkany. C'est des méthodes de voyous, enfin. Et je vous jure que c'est pas beau à voir.
Les caisses étaient vides parce que monsieur Balkany avait fait des dépenses inconsidérées. Monsieur de Chazot remet de l'argent dans les caisses et monsieur Balkany revient. Je suis pas d'accord.
Moi, il me plaît beaucoup. Il y en avait bien d'autres qui avaient fait pire et puis qui n'ont pas été punis du tout. Soyons honnêtes, mettons-nous à leur place. Si on pouvait gratouiller 2-3 millions par là, vous croyez qu'on le ferait pas ?
Quelques millions, ce sont les sommes que cherche la justice dans une autre affaire, celle des HLM des Hauts-de-Seine. Une intrigue dans laquelle Didier Schuller, l'ancien numéro 2 de Patrick Balkany, a fait financer sa campagne électorale par des entreprises en échange de juteux contrats pour certains des marchés publics de l'office HLM, peinture, plomberie, entretien, chauffage. Une méthode qui n'est pas sans rappeler celle dont avait été accusé Patrick Balkany quand il est devenu maire de Levallois. Poursuivi pour complicité dans l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine, mais finalement relaxé, il réussit malgré le climat de soupçons à être réélu député en 2007. C'est bien connu, en politique, tant qu'on respire encore, on n'est jamais mort. À partir de 2008, les Balkany sont confrontés à une autre critique. Celle-là est d'ordre économique. Elle tient à leur gestion de la ville. C'est la Cour des comptes qui pointe du doigt le bilan des finances levalloisiennes. Dette pharaonique, explosion des dépenses, gestion calamiteuse du patrimoine de la ville, les frais d'administration. Les chiffres sont éloquents. Levallois-Perret, commune de 60 000 habitants, est deux fois plus endettée qu'une agglomération comme celle de Lille, par exemple, qui regroupe plus d'un million d'habitants. Il faut dire que dès le début, les volontés expansionnistes du maire bâtisseur ont coûté cher. Terrain bradé à des promoteurs, multiplication des infrastructures communales, investissement dans des projets démentiels, un conservatoire de musique dernier cri, un centre aquatique flambant neuf, par exemple. C'est simple, la ville vit depuis 30 ans au-dessus de ses moyens et rien ne semble être fait pour maîtriser la feuille de route économique et éviter une possible banqueroute. Une situation qui pour autant n'inquiète pas plus que ça le couple Balkany. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Pour le couple d'élus de Levallois, ami de longue date du nouveau chef de l'État, l'occasion est trop belle de se placer sous son aile. Ainsi, fait du hasard ou de la providence, la justice ne va plus s'intéresser au couple Balkany entre 2007 et 2012. Monsieur obtient même de son ami Nicolas Sarkozy un passeport diplomatique qui lui permet de voyager en toute sérénité, notamment en Afrique où le maire de Levallois se livre à des activités d'intermédiaire en affaires. Et puis arrive 2012 et l'élection de François Hollande. Dès lors, pour les Balkany, fini le confort et la protection. Et, de fait, la justice se rappelle très vite au bon souvenir du couple d'élus de Levallois. Bis repetita, on les soupçonne d'avoir utilisé nouvelle fois des agents municipaux pour leur usage personnel. Cette fois, ce sont des policiers municipaux qui ont été chargés de jouer les chauffeurs. Devant la caméra du magazine Complément d'enquête, l'un d'eux raconte.
Depuis 2005, nous avons des collègues qui sont au nombre de 4, hein, qui sont détachés régulièrement pour être chauffeurs, garde du corps. Tous les soirs, ils ramènent monsieur et madame chez eux à Giverny. Et ils demeurent sur place, ils ont à disposition un studio, ils peuvent dormir sur place. Chauffeur du maire, chauffeur du député, chauffeur de l'homme privé lorsqu'il va chez lui à Giverny, chauffeur du vacancier lorsqu'il part sur Saint-Martin.
Saint-Martin, île de rêve des mers chaudes, où la justice soupçonne aussi le couple Balkany d'être propriétaire d'une luxueuse villa. Maison qui n'apparaissait alors nulle part dans leur déclaration de patrimoine et dont ils disaient n'être que de simples locataires. C'est sur cette seconde affaire de blanchiment de fraude fiscale et de corruption présumée que la justice enquête depuis 2013 et c'est dans ce dossier que les Balkany vont être mis en examen et qu'ils vont reconnaître une partie des faits qui leur sont reprochés. Saint-Martin, le moulin de Cossy à Giverny, mais aussi le riad d'Arcouchi à Marrakech, autant de sites perquisitionnés puis saisis. Le grand public découvre alors le train de vie et le luxueux patrimoine de ces élus de la République nés une cuillère en argent dans la bouche. De son côté, Isabelle Balkany affirme qu'elle et son mari ont acheté le château de Giverny en 1982, un an avant le premier mandat à Levallois-Perret, et que désormais, ils auraient légué ce patrimoine à leurs enfants. Certes, ce sont bien les enfants des Balkany qui ont l'usufruit de l'impressionnante propriété visitée par les policiers. Mais ce sont bien Isabelle et Patrick Balkany qui y résident à l'année, comme l'attestent les déclarations de leur chauffeur. En matière d'optimisation fiscale, on appelle ça l'astuce de légation. Mais en matière judiciaire, ça s'appelle aussi de la sous-évaluation de patrimoine. Grâce à Tracfin, il apparaît bien vite que les Balkany auraient planqué une partie de leur incroyable magot à l'étranger, à Singapour plus précisément. Sur ses comptes dormirait un peu plus de 5 millions d'euros. De l'argent qui, selon les enquêteurs, proviendrait de commissions sur des transactions opaques en Afrique à une époque où, sous l'ère bienveillante de Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany aurait mené de juteuses affaires comme intermédiaire. Des sommes non déclarées au fisc. Mais les Balkany sont également soupçonnés par la justice d'avoir trempé dans d'autres dossiers qui touchent directement leur fonction de responsable politique. Parmi eux, une plainte a été déposée contre X pour favoritisme dans le cadre d'un projet de reconstruction et l'entretien d'un collège à Courbevoie. La justice s'intéresse beaucoup également à Isabelle Balkany, qui était alors vice-présidente du département chargée des affaires sociales. Elle est aussi soupçonnée par la justice d'être inscrite frauduleusement sur les listes électorales de Levallois-Perret. Enfin, le spectre de l'entreprise Big Malion, associé au scandale de fausses factures à l'UMP, semble aussi pointer son nez du côté de Levallois depuis qu'une plainte a été déposée en février 2015 pour détournement de fonds publics. En cause, un contrat de 192 000 euros signé par la mairie de Levallois en 2001 pour conseiller la ville dans sa communication et la refonte de son magazine pendant 2 ans et qui, pour l'association des contribuables de Levallois, ne serait pas justifié. En ce début du mois d'octobre 2015, ce ne sont donc pas moins de 6 enquêtes qui courent autour du couple. Et pourtant, Patrick Balkany, accusé dans 6 dossiers différents et déjà condamné par la justice dans le passé, conserve son poste de député des Hauts-de-Seine et son poste de maire de Levallois qu'il doit occuper jusqu'en 2020. Faut-il y voir dans cette fuite en avant un syndrome Tibéri, par exemple, comme ce fut le cas à Paris ?
Est-ce que quand vous avez un excès de vitesse, on vous empêche de conduire ? Si vous avez 8 jours de suspension de permis, eh ben vous n'aurez pas votre permis pendant 8 jours et vous reconduirez après. Et on vous en parlera plus. Eh ben moi c'est pareil.
Les Français sont d'abord beaucoup plus intelligents qu'on ne le dit. Et c'est pas parce que vous avez 2 ou 3 juges un peu coincés qui ont décidé que ça c'était pas moral ce que j'avais fait, que ça va les faire changer d'avis.
Nous, notre histoire d'amour, elle est pas avec la mairie, elle est avec les Levalloisiens. C'est tout à fait différent.
La mairie, ça n'est jamais que la maison de tous les Levalloisiens, c'est pas la nôtre.
D'ailleurs, on va y rentrer, si vous voulez bien.
Si ça continue comme ça, on devrait être tranquille. On devrait pouvoir plier les Gaules ce soir.
Ah, ça, c'est à la justice d'en décider.
Qui vous irait bien? Prenez gaiement tout ça sous votre bras.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le couple Balkany avec notre invité Emmanuel Fanstein. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste au pôle enquête du journal Libération, notre partenaire tous les 15 jours. Vous avez entendu la chanson tout à l'heure, très amusante, des Parisiennes, l'argent ne fait pas le bonheur. Ben nous, on va pas parler des Parisiennes, mais des Levalloisiens et Ziennes. Alors, je précise que depuis la première diffusion de ce numéro d'Affaires Sensibles consacré au couple Balkany, c'était en octobre 2015, il s'est passé beaucoup de choses et nous allons, avec vous, Emmanuel Fanstein, actualiser tout cela. Alors, plusieurs dossiers en cours, dont le plus important pour fraude fiscale et corruption présumée, instruit par le juge Van Runenberg. On annonce le procès pour la fin de l'année, ça pourrait être ça. Enfin, le calendrier judiciaire appartient à la justice, mais c'est dans quelques mois, c'est ça.
Alors, les juges viennent de signifier la fin de leur instruction. Il y a Renaud Van Runenberg et Patricia Simon. Donc, en vertu de l'article 175, le parquet a désormais 3 mois pour prendre ses réquisitions. Et ensuite, le procès pourra être audiencé. Donc, techniquement, il peut tout à fait, effectivement, avoir lieu avant la fin de l'année. Une affaire dans laquelle, je le rappelle, Patrick Balkany est mis en examen pour corruption passive et blanchiment de fraude fiscale aggravée. Aggravée, c'est important, puisque c'est en raison du caractère habituel de ces fraudes. Donc effectivement, on est sur sans doute l'affaire la plus grave visant aujourd'hui les époux de Levallois.
Oui, parce qu'on l'a entendu pendant le récit, il y a eu plusieurs affaires, on a l'impression que ça va d'affaire en affaire, que finalement, ils font leur chemin, les Balkany. Mais là, c'est différent, là, quand même. On arrive à un moment qui est un vrai moment de vérité pour eux, apparemment, avec notamment ce dossier-là.
Bien sûr. Il faut rappeler que Patrick Balkany a déjà été condamné en 1996, à l'époque pour prise illégale d'intérêt. Il avait été condamné à 2 ans d'inéligibilité, votre reportage le rappelle. Mmh. Il est revenu ensuite en grâce en 2007, on en reparlera peut-être, sous Nicolas Sarkozy. Et la grosse différence depuis la première diffusion de votre reportage en octobre 2015, si je ne m'abuse, c'est qu'effectivement, beaucoup de choses ont évolué dans le mauvais sens pour Patrick Balkany, puisqu'il a effectivement déjà été mis en examen, mais pas seulement, ses biens ont été saisis. Son investiture aux législatives a été retirée, donc il ne se présentera pas en juin prochain dans les Hauts-de-Seine. Son fils, Alexandre Balkany, a fait un tour en détention provisoire pour non-paiement de sa détention. Patrick lui-même est toujours aujourd'hui sous contrôle judiciaire, donc il a interdiction de quitter le territoire. Autant de mesures contraignantes, coercitives, qui font que, voilà, selon plusieurs informateurs, le couple est aujourd'hui très mal, moralement.
Alexandre Balkany, justement, le fils mis en examen en 2016 pour blanchiment de fraude fiscale. Alors ça, c'est relié au dossier de ses parents, en fait.
Alors c'est le même dossier. C'est le dossier qui a été ouvert en 2013, en gros, sur le patrimoine des époux et qui a mis en lumière des montages tortueux pour acquérir des biens à l'étranger. Et notamment un riad à Marrakech, le riad d'Arjoussi, qui a été effectivement un temps occupé par Alexandre Balkany. Et c'est pour cette raison que lui a été aussi mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Il a donc aussi été rattrapé indirectement par les affaires de ses parents. Mais il faut savoir que dans cette famille, tout est assez imbriqué.
Alors, une enquête préliminaire, nous en sommes là, l'enquête préliminaire pour abus de faiblesse ouverte pour un mariage qui aurait pu aider à débloquer d'opérations immobilières au bénéfice d'un proche de Patrick Balkany, ça aussi.
Alors oui, ça peut sembler effectivement un peu plus anecdotique. Quelqu'un de Levallois, un habitant de Levallois, effectivement un veuf, riche veuf de Levallois, dont un promoteur local essayait de racheter l'appartement, s'est marié avec une employée municipale de la ville, et les enfants du veuf considèrent que c'est en raison de ce mariage qu'il a finalement accepté de vendre son bien. Mariage qui a été prononcé par Patrick Balkany lui-même. Donc pareil, on est dans une sorte de mélange des genres, très très à la sauce Balkany.
Sauf que le contexte a changé quand même. Depuis l'affaire Cahuzac, notamment avec la création du parquet national financier, la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique, on n'est plus dans ce contexte-là. Alors il y avait déjà eu un coup d'arrêt au financement illégaux, illicites de campagne électorale, avec des affaires, mais est-ce qu'on a vraiment franchi un pas? Alors peut-être pas dans l'efficacité, parce qu'il y a encore des affaires, mais est-ce qu'on a changé d'époque?
Il me semble, oui. Je crois que Balkany, c'est une histoire française. Il a pris, vous le rappeliez, la mairie aux communistes en 1983. Il est encore aujourd'hui à la tête de cette mairie, mais entre-temps, beaucoup de choses ont changé. À commencer par la loi, hein, puisque effectivement, il y a une série d'amendements législatifs qui encadrent aujourd'hui les campagnes présidentielles. Et depuis 1995, les entreprises ne peuvent plus officiellement, légalement, financer des campagnes électorales, comme ça a longtemps été le cas, notamment à Levallois-Perret. Et puis, plus récemment, effectivement, suite à l'affaire Cahuzac, un certain nombre de lois sur la transparence de la vie publique ont modifié les choses. Il y a eu évidemment la création du PNF, le Parquet National Financier, oui, qui a aujourd'hui l'affaire Balkany entre les mains. Il y a eu aussi la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est à l'origine d'une des enquêtes visant Patrick Balkany. Tout ça n'existait pas il y a encore quelques années. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que le quinquennat de François Hollande a fait beaucoup du point de vue de la morale de la vie politique. Et on peut voir aujourd'hui que les effets des affaires, notamment autour de François Fillon ou de Marine Le Pen, montrent que ce qui a longtemps été considéré comme un folklore, par exemple dans le cas de Balkany, est aujourd'hui considéré comme quelque chose de très grave et ne passe plus du tout. Effectivement, il me semble qu'il y a une évolution à la fois législative, mais aussi de l'opinion publique à l'égard des affaires, qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas faire ce qu'on faisait à l'époque sans aucun souci du côté de Levallois-Perret.
Je citais François Fillon en introduction de cette émission dans les résonances, et j'aurais pu aussi effectivement citer Marine Le Pen, j'avais cité François Fillon parce que c'est la même famille politique que les Balkany, mais effectivement Marine Le Pen est aussi dans ce cas en ce moment. Alors, tout de même, depuis le début de leur aventure en politique, le couple Balkany distille à la fois un éternel soupçon et quand même une longévité aux affaires qui est importante. C'est quoi ce paradoxe? C'est parce qu'il est arrivé au début des années 80 où le RPR à l'époque a fait main basse hein, sur les Hauts-de-Seine. Nicolas Sarkozy, la mairie de Neuilly, qu'il a chippé à Charles Pasqua, quelques autres aussi de Vejian dans les Hauts-de-Seine. Il y a cette famille politique qui est arrivée là, début des années 80. C'est ça qui tient.
Il y a effectivement la façon dont le RPR à l'époque, le parti gaulliste, a fait main basse sur les Hauts-de-Seine, avec bien sûr Patrick Balkany, mais aussi Didier Schuller à Clichy, mais aussi, bien sûr, Nicolas Sarkozy à Neuilly, mais de façon un peu plus prosaïque, je crois que le système Balkany est né sur quelque chose d'assez simple, qui est le clientélisme, qui est au fond, finalement, de viser les électeurs, et finalement, c'est une forme d'achat de voix déguisée, puisqu'en offrant tout ce qu'ils veulent à ses administrés, donc à ses possibles électeurs, Patrick Balkany fait effectivement du clientélisme. Il est très simple aujourd'hui, quand on habite à Levallois, d'avoir une place en crèche ou d'obtenir un nouveau logement. En réalité, c'est basé, et d'ailleurs c'est régulièrement épinglé par la Cour des comptes, sur une gestion extrêmement calamiteuse, hein, les mots sont de la Cour des comptes, de la ville de Levallois, qui est une des plus endettées de France. Il est là aujourd'hui le problème, il est là le paradoxe. C'est-à-dire que à partir du moment où on s'endette finalement au profit apparent des électeurs, a priori, ceux-ci votent pour vous. En réalité, une sorte de fuite en avant financière qui est dénoncée régulièrement, évidemment, par l'opposition municipale, mais aussi encore en janvier-février 2017 par la Cour des comptes, et qui est potentiellement catastrophique pour la ville, mais dont les effets ne se voient pas forcément à court terme.
Ça veut dire que, en quelque sorte, les électeurs du couple Balkany sont co-responsables de cette situation?
Alors c'est eux bien sûr qui votent pour lui, et d'ailleurs plus grand monde ne vote pour lui, puisqu'encore une fois il ne lui reste plus que son fief de Levallois, puisqu'il n'aura plus son siège de député qu'il avait récupéré en 2007. Et donc effectivement, voilà, aujourd'hui seuls les Levalloisiens croient encore en leur maire.
Le roi est nu. Tiens, on va aller au conseil municipal de Levallois-Perret si vous voulez bien, avec Annaëlle Verzeau, notre reporter qui a assisté au conseil du 28 septembre 2015, un conseil municipal assez théâtral, avec un public assez réactif.
Je me trouve au conseil municipal à Levallois-Perret, et c'est assez incroyable la disposition de cette salle de conseil municipal. On est un peu comme dans une arène ou comme au théâtre. Je me trouve avec des citoyens spectateurs sur une sorte d'estrade circulaire, et au centre, en contrebas, il y a les élus et Patrick Balkany.
Je vous remercie.
Monsieur Balkany,
Ayez le courage de démissionner.
Madame Hôtel, si vous voulez participer à la construction de demain, il n'y a aucun problème, il suffit de rejoindre notre groupe. Quand on est maire, il faut penser à sa population, à ceux qui ont plus de mal, les femmes enceintes, les femmes qui ont des bébés, les femmes qui ont des enfants. Il faut penser, aux agents. Pourquoi je le dis ? Parce qu'ils n'ont jamais été bien traités par la gauche. Chacun le sait. Voilà. Parce que j'ai vu comment ils étaient traités quand j'ai repris cette ville après 18 ans de communisme.
Là, c'est le vote.
Monsieur Courson, c'est vous qui déposez la question orale, je crois, sur la médiathèque Gabriel Péri. Vous pouvez toujours poser la question puisque la réponse a déjà été faite. L'a pas passé, on ne la passera pas, et vous n'avez pas besoin de la dire car vous seriez vous-même attaqué en diffamation par le maire. Je vous remercie. Voilà. Alors, j'ai reçu un vœu de monsieur de Bourson.
C'est lui de l'opposition.
L'association de la Loisienne, dont les travaux ont été repris par les médias, a mis au jour l'hypothèse de montage irrégulier dans le cadre d'opérations immobilières gérées par notre ville de Levallois. Nous vous proposons donc la création d'une commission indépendante qui comprendrait des membres du conseil municipal émanant des différents groupes et des personnalités extérieures reconnues pour leurs compétences en matière immobilière et financière. Je vous remercie.
Bien, ben, je vous remercie aussi. Obligé de faire évacuer le public. Je crois que nous avons terminé l'ordre du jour. Rendez-vous au prochain conseil municipal. La séance est levée.
Monsieur Balkany,
pour quelle raison vous n'avez toujours pas démissionné, Monsieur Balkany?
Patrick Balkany s'en va, sans répondre à aucune des questions, aucune réponse. Les policiers qui sortent de la mairie. Et toujours pas de Monsieur Balkany, qui s'est échappé par une issue souterraine, je crois. Bonjour, vous étiez au conseil municipal, non ?
Oui.
Oui ?
Oui.
C'est assez chaud quand même, non ?
Toujours.
C'était calme.
Toujours, mais c'était calme, là. C'était calme.
Pour ici, c'est calme.
Oui.
Balkany a fait certains efforts après le dernier conseil municipal.
Mais alors, il y a une pétition, j'ai vu, qui circule, qui demande la démission de M. Balkany. D'après vous, pourquoi est-ce qu'il n'a toujours pas démissionné après les poursuites judiciaires?
Parce qu'il est innocent de tout ça. Vous n'avez pas entendu? Il est innocent de tout. Avec la raison de la ville, il attaque toute diffamation.
Les attaques sont diffamatoires.
Donc, pourquoi démissionnerait-il?
Vous habitez tous à Levallois?
Mm-hmm. Oui.
Oui.
C'est toujours la même boîte qui vient faire les trous dans les rues. Hein? De toute façon, mais on lit ça dans le canard depuis des années. Les grosses boîtes n'osent même plus venir aux appels d'offres parce qu'elles savent que ce n'est pas la peine.
Les boîtes du BTP ?
Oui. Depuis 1983, le système est bien rodé.
D'après vous, pour quelle raison est-ce que M. Balkany est systématiquement réélu ?
C'est-à-dire que dès lors qu'effectivement, chacun peut y trouver son compte parce qu'il va bénéficier d'une place en crèche, d'un cadeau, d'un logement... Bah finalement, ça fonctionne pas si mal et donc ça contente une partie de la population. Certes, effectivement, il est réélu, mais avec des taux d'abstention qui vont grandissant d'élection en élection. Voilà, donc une représentativité qui est malgré tout un peu émoussée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Bonne soirée.
Emmanuel Fansen, qu'est-ce que ça vous inspire, cette ambiance au conseil municipal? Alors, peut-être que le rire est le remède au désespoir.
On a entendu des
gens de témoins dire, bon, ouais, bah, c'est comme ça, mais oui. Presque en rire, mais.
Je crois que pour les opposants locaux, hein. Il ne reste que le rire, malheureusement. Ouais. Effectivement, assez saisissant ce reportage qui montre la morgue et le mépris avec lesquels Patrick Balkany traite ses opposants, et ça depuis des années. Et c'est vrai qu'on est dans l'opposition localement, c'est assez terrible. Donc voilà, il me semble que là, il y a manifestement une prise de conscience qui est en train de se faire enfin.
Avec la menace judiciaire, on l'entendait.
La menace judiciaire, et puis encore une fois les affaires qui finalement finissent par imprimer malgré tout.
Alors, dans le récit qu'on a proposé tout à l'heure, où les auditeurs ont dû remarquer qu'entre 2007 et 2012, les choses sont allées un peu mieux pour les Balkany. Or, entre 2007 et 2012, le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy. Voilà. Un proche, ils sont copains en plus. Hein.
Ils sont très proches, effectivement, depuis longtemps.
Il y a une protection du pouvoir.
Alors, il y a en tout cas un retour en grâce de Balkany entre 2007 et 2012. Son copain Sarkozy est à l'Élysée, et c'est pas simplement qu'une relation amicale, c'est aussi une relation d'affaires, puisque Patrick Balkany non seulement récupère son siège à l'Assemblée nationale à la faveur des législatives de 2007, mais va aussi servir de missi dominici plus ou moins informel, plus ou moins officieux en Afrique, où il va jouer les messieurs bons offices pour le compte notamment de Nicolas Sarkozy. Son nom va notamment apparaître dans une affaire ténébreuse que vous connaissez bien, je crois, à France Inter, qui est l'affaire Urami Nareva.
Oui, parce qu'on a fait une émission sur cette affaire, effectivement.
Et dans le cadre de ce contrat gigantesque de 1,8 milliard d'euros, il va y avoir à un moment donné un blocage en Centrafrique, présidé à l'époque par Monsieur Bozizé, ami également de Patrick Balkany, qui connaît beaucoup de gens depuis beaucoup de temps en Afrique, et qui va réussir, grâce à son entregent, à débloquer la situation. Et va apparaître en marge de l'enquête sur le patrimoine une étrange commission de 5 millions de dollars, signée par un industriel belge, Georges Forest, et qui va arriver sur les comptes de Patrick Balkany, et que les juges du pôle financier vont soupçonner d'être à l'origine de l'achat d'une des grandes propriétés de Patrick Balkany à l'étranger. Donc pour faire le lien, effectivement, Patrick Balkany va avoir une certaine liberté de mouvement. Il va évidemment aussi avoir un passeport diplomatique pendant ces années-là. Donc effectivement, tout montre qu'il est sinon protégé, en tout cas assez libre de ses mouvements, et bien introduit pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. On a vu que effectivement, depuis que François Hollande est président, le ton a changé. Et on peut effectivement se demander si la chute de Balkany n'est pas aussi finalement celle de Nicolas Sarkozy.
Une toute dernière chose, on a évoqué dans le récit des policiers municipaux qui auraient été au service personnel des Balkany. Ce à quoi ces derniers répondent que Patrick Balkany, je suis maire à 100% où que je me trouve. Ça, c'est un argument qui a tenu un certain temps finalement. Qu'est-ce qu'il voulait dire
en fait ? C'est parfaitement emblématique de la vision évidemment biaisée que Balkany a de la politique, c'est-à-dire effectivement un mélange des genres permanent entre privé et public. Il considère finalement que la mairie, c'est sa maison, on l'a bien entendu au conseil municipal, mais que sa maison, c'est l'annexe de la mairie. Et du coup, à partir de là, les policiers municipaux, ou il y a quelques années, des agents de la mairie peuvent lui servir de chauffeur, de garde du corps, ou autre chose. Ils considèrent finalement que les moyens qui sont alloués à la mairie sont aussi des moyens qui peuvent lui être alloués à titre personnel. Donc on est dans une confusion totale des genres qui est une dérive absolue de la République et qui aujourd'hui, a priori, est en train de prendre fin.
Ce sera le mot de la fin, justement. Emmanuel Fansten, je rappelle que vous êtes au pôle enquête de Libération. Je rappelle également que le journal Libération est notre partenaire tous les 15 jours. Merci de nous avoir éclairés, surtout merci d'avoir actualisé cette affaire Balkany dont nous avions traité les contours jusqu'à l'automne 2015. Merci. Au revoir. Des affaires sensibles aujourd'hui, le dossier Balkany, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera Bonjour Tristesse. Et oui, nous parlerons du roman de François Sagan qui avait été vraiment, vraiment un événement littéraire et français considérable.